Carnet de région.
Gare,
Aude,
Lozère,
Hérault,
Pyrénées-Orientales.
L'actualité en langue de Croussillon.
Bonjour, voici votre rendez-vous hebdomadaire avec les carnets de région. Une émission réalisée par des radios associatives non commerciales du Languedoc-Roussillon. Pour 3 semaines consécutives, Radio Grille Ouverte à Alès en assure la rédaction en chef. Au sommaire de cette édition qui fleure bon la détente au bord de l'eau et des sorties culturelles, avec l'accueil sur les bords du lac du Sadagou des Échos de l'Habitat, la démarche environnementale du port de Marseillan, la présentation du Festival des Voix de la Méditerranée de Lodève, l'ouverture ce jeudi du Festival du film documentaire de La Salle en Cévennes, et enfin la tenue à Montpellier de la 18e édition du FIS, à savoir le Festival international des sports extrêmes. Le magnifique cadre du village héraultais de Selles, au bord du lac du Sadagou, va servir cette année encore de support aux Échos de l'Habitat. En cette fin de semaine, samedi et dimanche, le grand public pourra découvrir et échanger autour des techniques et des matériaux utilisés pour et dans l'habitat écologique. Cette manifestation est organisée depuis 2 ans par la société Éco Lodève, une entreprise créée par Marc Padilla, que l'on écoute maintenant présenter ses journées de l'habitat au micro d'Alain Mendez de Radio Lodève.
C'est la 15e ou 16e année que se font ces journées autour de l'habitat. C'est la 2e année que nous l'organisons, donc avec toujours le même principe, atelier participatif, palabres et conférences. Et cette année, avec la particularité que la section de première en art appliqué à l'Odev participe à la scénographie ou à l'accueil, les espaces palabres, avec une trentaine de jeunes qui ont travaillé sur ce projet et qui sont en train de le mettre en forme. C'est surtout pour le grand public. À la fois, il y a de la technique, il y a du savoir-faire. Sur le site alors d'Éco Lodève, il y a toute la présentation des ateliers, des conférences. Donc, vraiment, le programme est très dense. Donc, ça vaut le coup pour ceux qui veulent, s'il y a une thématique bien spécifique, s'inscrire pour des ateliers éventuellement cuiseurs solaires ou autres. Et également, par rapport à des conférences ou des temps un peu plus spécifiques sur une thématique, ça vaut le coup de regarder le programme pour venir plus spécifiquement à un moment. Mais après, pendant tous les 2 jours, ce sera possible d'interpeller les personnes, de parler. Il y a un programme assez détaillé, mais il y a aussi ce qui va se passer qu'on n'imagine pas encore.
À quoi ressemblera le petit village de Selles pendant tout le week-end ?
Beaucoup d'ateliers, il y a une vingtaine à peu près. Donc les rues sont occupées par différents espaces, donc pour des enduits terre, chaud chanvre. Pour cette année, une thématique un peu plus tournée sur l'énergie. Donc éoliennes, capteurs solaires. Et à chaque fois, c'est l'idée de montrer des techniques par des artisans ou par des associations, enfin des personnes qui vont montrer comment on peut mettre en œuvre et parler de l'environnement en général, l'habitat en particulier. Voilà, donc c'est aussi montrer les acteurs parce qu'il y a de nombreux artisans qui travaillent et qui en vivent de l'utilisation de ces matériaux-là. Et là, les gens qui sont présents sont des gens qui ont envie de partager leur savoir-faire. Donc on est aussi dans une dimension réseau qui, sur le territoire, maîtrise certaines techniques et peut les partager. Oui, il y a pas mal de monde, c'est assez riche et en tout cas, il devrait faire beau et c'est un très très bon moment. Enfin, le cadre est magnifique et vivant comme ça avec tous les ateliers et tout le monde, c'est les transformer en 2 jours. Ouais. Alors, au niveau organisation, le côté très pratique, c'est que l'Odève, par l'intermédiaire de Sophie, donc qui travaille depuis pas mal de mois et en relançant tout le monde, en organisant les réunions, en lien avec la mairie de Selles, mais bien sûr en lien avec toutes les personnes qui vont ou faire les conférences ou faire les ateliers. Donc, il y a une dimension logistique assez importante pour amener les matériaux, pour transporter les jeunes, pour plein de choses. Donc ça, c'est, je dirais, que l'Odève qui le prend en charge. Mais autrement, c'est un travail collectif et donc c'est des personnes qui seront là ce week-end.
L'accès à cette manifestation est libre et gratuit durant tout le week-end. Vous pouvez également retrouver le programme complet de ces 2 journées sur ecolodev.fr. On part maintenant du côté du littoral, plus précisément à Marseillan, ce port de la Méditerranée qui borde l'étang de Thau. Marseillan, tout comme 6 autres ports en Languedoc-Roussillon, s'est engagé dans une démarche environnementale et durable.
Écocéan, jeune entreprise française qui œuvre pour une restauration écologique des aménagements portuaires et côtiers, a lancé plusieurs projets autour du bassin méditerranéen. Le port de Marseillan, séduit par l'idée de protéger et restaurer la biodiversité marine, a fait appel à Yann Guet de la société Écocéan.
Alors, l'idée de base, c'est comment améliorer l'impact des infrastructures portuaires sur les écosystèmes. L'idée de base, c'est que avant la présence des ports, Marseillan par exemple, vous aviez une nursery pour les petits poissons. Tout simplement parce que les petits poissons y trouvaient refuge. L'homme a construit un port pour faire un parking à bateaux. Et malheureusement, le port n'a pas été conçu pour répondre à des problèmes biologiques d'habitat. Donc partant de ce principe, face au problème de stock de poissons, on a commencé à réfléchir depuis quelques années à comment améliorer l'impact des quais, des pontons, pour qu'ils puissent contribuer aux écosystèmes en fournissant de l'habitat aux larves. Partant de ce principe-là, on a développé le bio-hut. Le bio-hut, c'était un peu une hutte de biodiversité. C'est tout simplement deux cages d'acier, dont une est remplie de coquilles d'huîtres, qui va offrir nourriture, habitat aux larves de poissons qui rentrent dans les ports. Donc nous avons développé le bio-hut et nous avons déployé le bio-hut dans le projet NAPEX. NAPEX signifie nursery artificielle pour des ports exemplaires. Nous avons choisi 6 ports du Languedoc-Roussillon plus 6 fours dans la région PACA. L'idée était vraiment de tester ce module dans différents types d'environnements, courantologie, type de fond, lagune, mer, pour le développer et disposer d'un habitat qui soit le mieux adapté possible pour les larves de poissons. Donc le projet NAPEX a commencé en 2013, donc l'année dernière, et continue cette année. Nous travaillons avec le CEFREM et le CNRS qui sont en charge d'évaluer ce qu'on appelle le gain écologique. C'est tout simplement faire des comptages. L'année dernière, par exemple, le CEFREM a passé plus de 200 heures dans l'eau, où les plongeurs scientifiques sont là pour comparer les zones équipées de biotes versus des zones qui ne sont pas équipées, et donc d'essayer de chiffrer ce gain écologique. Qu'est-ce qu'apporte le biote ? En fait, on se doute bien que là où il n'y a rien, il y a rien, donc ça n'a aucune incidence sur la biodiversité, c'est même plutôt négatif. Et là où il y a un biote, on va avoir un plus. Maintenant, il s'agit de quantifier ce plus, et c'est tout l'enjeu du projet NAPEX.
NAPEX, ou le projet lauréat de la Stratégie nationale pour la biodiversité, un programme qui a impulsé et diffusé la pratique des biohuts. En 2014, plus de 450 biohuts sont déployés dans 12 ports de Méditerranée.
C'était un reportage réalisé par Lauriane Avard de Radio Pays d'Hérault. La 13e édition du Festival du film documentaire de La Salle se déroule ce week-end à La Salle. Un rendez-vous devenu incontournable. Une cinquantaine de films à l'affiche, une quarantaine d'intervenants, des avant-premières, 4 salles de projection, le tout sur 3 jours, et des réalisateurs venus de tous les pays. Cette année encore, le Festival du film documentaire de La Salle en Cévennes promet d'être un bel événement. Le thème de cette année porte le beau mot occitan de Lou Parach, qui a donné en français le père, l'égal en dignité, un mot qui ouvre vers l'altérité et donne toute sa place à l'international, comme l'explique Guillaume Brouillet, délégué adjoint du festival.
Cette année, on a vraiment internationalisé la programmation. C'est un travail à l'année. Les gens ont du mal à imaginer ça, mais c'est un travail à l'année. Alors c'est vrai que ça, c'est la différence par rapport à l'époque d'Henri. C'est que ça s'est un peu professionnalisé dans le sens où les contraintes qu'on se met pour la sélection, la programmation, sont bien, bien plus importantes qu'il y a ne serait-ce que 3-4 ans en arrière. Là maintenant, c'est vraiment une organisation qui prend des mois et des mois et des mois parce que c'est de la négociation en direct avec des réalisateurs internationaux, des distributeurs internationaux. On a les mêmes contraintes que des festivals comme le Festival de Cannes, hein, clairement. Donc c'est une organisation à l'année. En fiction, on pourrait pas faire un festival comme ça à La Salle. Là, on a un festival clairement, en termes de qualité, qui n'a rien à envier aux grands festivals internationaux. Il y a peut-être moins de films, certes, que dans un grand festival international. On va dire qu'on a la moitié moins de films que dans un grand festival international. Mais en termes de qualité, on n'a absolument rien à envier à ces grands festivals. C'est tout à fait en termes de niveau de qualité, on est dans le même rapport, quoi. Donc en termes de boulot, ben aussi, quoi. C'est une négociation film par film. Là, il y a des films qui m'ont pris un temps infini entre la négociation sur des partenariats avec des ambassades, des droits de distribution, sous-titrage du film en français par nos soins, invitation du réalisateur. Enfin, c'est tout ça réuni juste pour un film. C'est déjà des semaines de travail. Donc imaginez, vous multipliez par 20 films comme ça, ça fait des mois, voilà. On peut remercier vraiment Henri Delatour qui a quand même œuvré pour créer le réseau autour de La Salle au niveau national, parce que ça, je pense que c'est clair, c'est lui qui en est l'artisan. Et ça, ça a servi de carte de visite au niveau des distributeurs déjà. Par exemple, les distributeurs sont sensibles à voilà, est-ce que ce festival est un festival de qualité, parce que je ne veux pas distribuer mon film n'importe où. C'est que c'est le travail d'aller sur le terrain, de partir à l'aventure dans des festivals et aller chercher les réalisateurs, aller chercher les films de gens qui ne nous connaissent pas. Parce que d'un point, pour un réalisateur danois, je vous assure que la salle, ça n'existe pas, même pas le début du commencement d'une idée. Donc ça se travaille en relationnel. Au niveau national, ça y est, effectivement, on parle de nous partout. Quand on va dans les autres festivals, tous les autres festivals, on connaît la salle en France. Ça, c'est une certitude maintenant. À l'international, on va attendre un peu. Ça viendra.
Pour tout savoir sur le Festival du film documentaire de la salle, une seule adresse, www.festivaldelasalle.org. C'était un reportage de Rémi Goujon pour Radio Escapade.
Carnet de région. L'actualité en Languedoc-Roussillon.
D'un festival à l'autre. En effet, ce sera le 16 juillet que le Festival des Voix de la Méditerranée ouvrira ses portes à l'Odève. 46 poètes seront présents pour cette 17e édition, avec en invité d'honneur le cinéaste et poète iranien Abbas Kiarostami. Cette année, l'attention du directeur du festival, Franck Loya, s'est portée plus précisément vers la jeunesse.
C'est vraiment ce qui nous anime dans la confection du festival et dans la manière dont on imagine sa programmation. Nous, en tout cas, on le travaille sur plusieurs axes. D'une part, faire en sorte que la poésie ne soit pas abordée uniquement à travers des lectures, mais que aussi elle soit vraiment le point commun de spectacles, de concerts, de performances, ce qui permet à chacun, selon ses goûts, selon le rapport qu'il a à la poésie, d'entrer dans le festival d'une manière qui lui est plus familière. Il y a d'une part donc cette diversité de propositions artistiques. Un autre aspect, c'est justement de ne pas faire en sorte que le festival soit uniquement un temps fort, hors sol et déconnecté d'une dynamique toute l'année. Ça signifie qu'on lance des projets en amont, y compris dès le mois de mars avec le Printemps des Poètes, des projets qui, pour certains, mènent jusqu'au festival et qu'on met aussi en place des projets qui permettent au public, à travers des ateliers, à travers notamment des ateliers, de participer très directement au festival pendant sa durée.
Alors vous l'avez dit, une programmation très jeune, c'est quoi? C'est place aux jeunes ou au contraire faire découvrir de nouveaux talents?
Nous, on se positionne très clairement sur la découverte artistique, la découverte, alors qu'ils soient jeunes ou moins jeunes. Mais c'est vrai que ce souci à la fois d'intéresser la jeunesse à un festival de poésie, parce que c'est pas forcément un nom ou un terme qui va les faire venir comme ça naturellement, j'ai envie de dire. Donc on a ce souci d'intéresser à la jeunesse, donc aussi de tenir compte de leurs goûts et de proposer des choses qui peuvent leur parler. Mais on a aussi le souci, y compris pour un public plus âgé, de leur faire découvrir de jeunes poètes, casser l'image du vieux monsieur, du poète qui est forcément un vieux monsieur. Non, il y a aussi des femmes poètes, il y a aussi des jeunes femmes poètes. Donc c'est notre souci donner une image la plus réelle possible et pas uniquement patrimoniale de la poésie.
Un des temps forts du festival, c'est le grand invité Abbas Kiarostami. Pourquoi ce choix ?
Parce que c'était une opportunité assez extraordinaire d'accueillir Abbas Kiarostami, qui est invité partout dans le monde à l'Odève, et qu'il sort chez Poepsi, donc un éditeur de poésie, un recueil de l'ensemble de ses poèmes. Donc c'était vraiment un très bon calendrier pour faire découvrir à tout le monde que Abbas Kiarostami est aussi et peut-être avant tout un poète.
Est-ce que c'est aussi l'idée de dire aux gens que la poésie, c'est pas uniquement des gens entre eux, un petit cercle, que c'est vraiment quelque chose qui est accessible à tout le monde ?
Totalement, c'est toujours cette idée-là qu'on décline de toutes les manières possibles. Et puis c'est aussi montrer l'influence de la poésie sur les autres arts, montrer le rapport de la poésie entre les autres disciplines du spectacle vivant. Qu'est-ce qui se passe quand la poésie sort du livre, quand elle déborde de son livre ?
C'était un entretien réalisé par Romain Berchet de RCF Hérault pour le carnet de région. Jusqu'à ce dimanche 1er juin, le Festival international des sports extrêmes va secouer la capitale régionale. Plus communément appelé le FIS, cet événement rassemble plus de 1500 riders pour le plus grand plaisir des 500 000 spectateurs attendus. Sur les bords des rives du Lez se présenteront des stars du skateboard, du roller, du mountain bike, du wakeboard ou encore du BMX. Cet événement majeur dans le domaine des sports extrêmes en est déjà à sa 18e édition. Et comme pour fêter cette soudaine majorité, le FIS s'agrandit en créant le FIS World Series. Hervé André Benoît, président de l'association FIS, présente cette nouveauté 2014.
On a organisé plus de 300 événements dans le monde entier, différents sous la marque FIS. On en a fait en Tunisie, en Algérie, au Maroc, à Dubaï, à Koweït, au Sultanat d'Oman, au Costa Rica. La volonté aujourd'hui, c'est d'arriver à structurer tout ça pour apporter une lisibilité à nos sports, pour qu'un stade 2 puisse se dire c'est quoi le FIS. Le FIS, c'est la première étape du circuit mondial de ces disciplines-là. Donc on a fait un appel à candidature, on a retenu 3 villes en plus de la ville de Montpellier. On souhaite certainement en retenir 2 de plus l'année prochaine. On a plus d'une dizaine de candidatures déjà présentées pour 2015, 2016 et 2017. Alors les 3 villes sont la Principauté d'Andorre, c'est Malacca en Malaisie et c'est Chengdu en Chine. L'important pour nous, c'était la gratuité de l'événement, c'était la proximité d'être en centre-ville et d'avoir vraiment un tissu local dynamique et motivé, à la fois au niveau des riders, mais aussi de pouvoir faire une communication massive pour apporter énormément de monde, parce que le FIS, c'est aussi important d'avoir un public chaud et motivé pour que les riders puissent s'en donner à cœur joie. Donc voilà en quelques mots ce que la World Series est. Le but final étant de mettre le maximum nos sports en valeur et de permettre d'avoir de plus en plus de riders qui se mettent sur une planche à roulettes, sur un BMX ou sur un wakeboard. Dans le cadre de la World Series, on prend encore un cran au niveau sportif international. Donc les équipes qui s'occupent de fabriquer les infrastructures sont des professionnels, des experts dans chacun des sports. Donc c'est de se référer à certaines vidéos qu'on a pu voir ou des certaines courbes, des certaines transitions. Donc c'est chaque année de fabriquer de nouveaux modules ou de reprendre les anciens modules, de les modifier pour faire évoluer notre sport.
À noter également que 2 compétitions qui font partie du circuit mondial feront leur apparition durant ce festival. Il s'agit du Slackline et du Pogo Stick. Toutes les informations sur cet événement sur le www.fise.com. C'était un sujet proposé par Maxine Triano pour Radio FM+. Ce carnet de région se referme, nous le rouvrirons dans une semaine. Merci de l'avoir suivi en notre compagnie. Carnet de région est une émission produite et réalisée par des radios associatives non commerciales du Languedoc-Roussillon. Rendez-vous même lieu, même heure, la semaine prochaine. Au revoir à tous.
Carnet de région, l'actualité en Languedoc-Roussillon.